Donc, ce moine bénédictin belge, dont Lambert Bauduin, je dis bien Bauduin parce que c'est D-U-I-N, est à l'origine des mouvements liturgiques et œcuméniques contemporains. Oui, oui. Oui, à l'origine des mouvements liturgiques et œcuméniques d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Comme quoi les initiateurs des plus grandes choses, et ça c'est Jean XXIII qui lui a reconnu chez lui, tout ça car c'était un ami du cardinal Roncalli, le patriarche de Venise qui est devenu Jean XXIII. C'était un grand spirituel dont Lambert Bauduin, un penseur formidable. Il a enrichi la théologie, les perspectives nouvelles dans l'Église. Il a eu surtout l'art de faire passer, on peut dire, de grandes intuitions au plan des réalisations concrètes, là. C'est-à-dire quoi? La restauration liturgique, le renouveau monastique, puis l'œuvre écuménique. Vous direz, c'est de bien grands mots, certains d'entre vous. La restauration liturgique, c'est-à-dire faire que la messe soit belle, intelligente, et que les gens y participent. Grosso modo. Ensuite, le renouveau monastique. Mais que dans les monastères, on vive autrement que comme des automates, dans une obéissance si absolue qu'on ne cesse d'être des enfants, au fond, sans aucune perspective personnelle. Parce qu'un vrai moine, comme disait Don Columba Marmion, qui est mort en odeur de sainteté, à la même époque où ce monastère a été fondé, au début des années 20, et je vous en parlerai de Don Columba Marmion. En fait, il est mort le 30 janvier 1923, et je compte vous en parler, si possible, à la fin du mois. J'aime beaucoup Don Columba Marmion, sur la tombe duquel j'ai si souvent prié à l'abbaye de Maritsou, en Belgique aussi. Ah, quel homme merveilleux que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, Don Columba Marmion, en lisant ses ouvrages, ses livres, un peu trop théologiques peut-être, mais qui m'ont beaucoup intéressé en tous les cas. Alors donc, le renouveau monastique, puis l'œuvre écuménique, bien, c'est évidemment le rapprochement entre les différentes églises chrétiennes, afin qu'elles apprennent à se connaître, à profiter des richesses merveilleuses que chacune renferme, et au besoin à se dégager de certaines choses pénibles que l'on traîne avec soi. Alors, Don Bauduin a été engagé personnellement, donc, dans toutes ces tâches-là. Il a exercé aussi une influence profonde sur la pensée de plusieurs théologiens de premier plan, comme le Père Congar, oui, fameux dominicain, qui était un des piliers du Concile Vatican II. Il y a eu beaucoup d'influence aussi sur l'action de nombreux artisans de la réforme interne de l'Église, hein, dont, en particulier, comme je vous dis, le pape Jean XXIII. Et le rôle que Don Lambert Bauduin a joué pendant la première moitié du XXe siècle, ça le place, retenez bien ça, à l'avant-plan parmi les hommes d'Église qui ont permis le Concile Vatican II et qui ont influencé les travaux de cette assemblée fantastique sous la conduite de l'Esprit-Saint, comme tout concile de l'Église. Octave Bauduin, c'était son nom de baptême, Octave. Il était originaire de la SB, c'est un plateau de Belgique peu élevé, fertile, au nord de ce sillon de Sambre-et-Meuse. Hein? Sambre-et-Meuse, ça vous rappelle quelque chose, hein? La fameuse marche militaire qui a été composée vers 1880 à peu près en France. Hein? Et alors, donc, Octave Bauduin venait de là, il appartenait à une famille de bourgeoisie terrienne, de conviction catholique, de tendance politique libérale. Alors, il y avait deux bonnes bases. Après les études secondaires, puis la philosophie accomplie au petit séminaire de Saint-Tron, c'est en Belgique, c'est dans le Limbourg. Il était là de 1885 à 1893. Là, il a songé à un moment, comme moi et bien d'autres, à entrer chez les Chartreux. Mais c'est pas facile. Puis, il a opté pour le clergé diocésain. Quelle différence, on est loin des Chartreux. Il a été ordonné prêtre à Liège en 1897. Il s'agrège 2 ans plus tard à une société de prêtres qu'on appelait les aumôniers du travail. Imaginez, on est loin des Chartreux, hein, qui venait d'être fondée en vue de promouvoir l'apostolat en milieu ouvrier à la suite de toute l'influence de la belle encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, qui a eu une telle influence sur l'Église, hein, afin de permettre aux catholiques de sortir de leur dévotion et d'aller vers les pauvres et les ouvriers. Car on peut se noyer dans des dévotions, hein, et c'est tragique. Il faut faire bien attention. Il faut être dévot, mais dans le bon sens du terme. Alors son enthousiasme pour les grandes causes, son esprit d'entreprise aussi ont trouvé à se manifester pour la première fois. Il a fait d'abord une construction près de Liège, construction d'un complexe de bâtiments pour loger des ouvriers. Vous direz, on est loin de l'apostolat liturgique et tout ça. Hein? Eh bien oui, il est parti de là. Il a fait beaucoup d'apostolat social dans le Hainaut. Mais il a pris peu à peu ses distances vis-à-vis une action ouvrière qui se transformait, chez bien des prêtres, dans une sorte de mouvement de revendication. Il estimait que le prêtre n'avait pas sa place là-dedans. Les laïcs, oui, mais pas les prêtres. Alors, après 1903, les aumôniers du travail, dont ils faisaient partie, sont forcés de réorienter leurs activités dans un sens moins engagé. Et puis, on sait exactement laquelle de ces deux séries de circonstances, assez contradictoires, donc, fut la plus déterminante dans la décision prise par notre jeune prêtre, Octave Bauduin, de quitter les aumôniers du travail. Il est du moins certain, en tous les cas, que si dans la suite, il va évoquer plusieurs fois ses années d'apostolat ouvrier d'une manière négative, il déplore notamment l'absence de vie liturgique dans le milieu ouvrier, il restera marqué par cette expérience qui lui avait donné le sens de la vie paroissiale, le souci d'envisager les problèmes religieux du peuple chrétien, là, ce pauvre peuple qui a de la difficulté à saisir qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle dans son ensemble. Hein. Alors, il s'est intéressé à ces gens-là, et puis il était bien surpris devant les gens bien pensants, les élites catholiques qui manquaient de charité profonde à l'égard des pauvres. Alors il était divisé entre les deux, et après avoir pensé à demander son admission chez les dominicains comme prêtre, l'abbé Bauduin a décidé en 1906 d'entrer à l'abbaye bénédictine du Mont-César à Louvain. Louvain, c'est une ville très intellectuelle catholique à l'époque, et qui est maintenant dans la partie flamande de la Belgique, et l'université de Louvain, francophone, a été reconstruite ou déménagée en section francophone wallonne. Il a donc fait profession monastique l'année suivante, en 1907, sous le nom religieux donc de Lambert, qui est le patron de Liège. Il est devenu donc le père Lambert Bauduin. Le prieur, dont Columba Marmion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, comme abbé de Maretsou, allait devenir un des maîtres spirituels de notre siècle, hein, avec ses livres, en particulier le Christ dans ses mystères, le Christ vie de l'âme, le Christ idéal du moine. Et j'ai aussi dans ma bibliothèque, en un quatrième volume, ses présences de Don Marmion. C'est un magnifique mémorial publié à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort en 1948, que ça a été publié. Il est mort en 1923, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et alors, donc Columba Marmion va faire découvrir à notre jeune moine la richesse des doctrines théologiques essentielles. Ces doctrines qui ne s'assimilent et ne s'entretiennent comment que par la méditation de la Bible, de l'Écriture sainte, hein, et par la liturgie. Ce sont les deux sources pour Don Marmion et pour Don Lambert Bauduin, là, les deux sources qui sont alors bien négligées dans le monde catholique. On est surpris. Comment ça? Aujourd'hui, tout le monde parle de ça, la liturgie, la Bible, la liturgie. Mais oui, mais ça vient de lui, ça vient de Don Columba Marmion et de Don Lambert Bauduin. Ça vient de Belgique, quoi. Alors, chargé d'enseigner dans le monastère du Mont-César la théologie fondamentale, comme on dit, la théologie, si vous voulez, dogmatique, notamment le traité sur l'Église. Alors, Don Lambert établit très vite le lien, auquel on prêtait pas attention dans ce temps-là, entre la vie liturgique des moines, et l'Église comme corps mystique du Christ. On parlait pas de ça dans ce temps-là. Le corps mystique du Christ, pourtant, s'est développé dans les épîtres de saint Paul. Je me souviens que ma mère nous parlait ça dans les années 30, et on était surpris un peu. Elle avait des notions de ça qui lui avaient été données par des jésuites. Et alors, la grande communauté des fidèles de tout rang est bien unie avant tout par la prière commune. C'est ça qu'il maintient. Et c'est là l'origine de sa grande vision d'unité. c'est la glorification de Dieu notre Père. Glorification du Père par les membres de l'Église qui s'insèrent grâce à la liturgie dans cette offrande amoureuse de Dieu le Fils, du Fils. Un seul Dieu, mais deux personnes. Et ça s'accomplit dans l'unité amoureuse de l'Esprit-Saint. Et c'est comme ça qu'il voyait la messe, qu'il voyait les moines au cœur priant, et toute la prière chrétienne, et ajouté par la suite que cette liturgie qui fait l'Église, en unissant les esprits, les cœurs, bien, elle œuvre du même coup à l'union, et même à l'unité de tous les chrétiens, comme aussi à la restauration d'ailleurs de l'humanité entière, l'humanité entière qui est promise au royaume de Dieu. Que c'est beau quand on vit sa messe de cette façon-là, quand on sait qu'on s'en va vers le Père quand on entre dans une église pour assister à la messe, et qu'on offre le Fils éternel de Dieu à son Père, qui s'offre, et on s'unit à lui, plus particulièrement dans la communion, et qu'on s'unit profondément au corps mystique du Christ dans l'amour de l'Esprit-Saint. C'est dans le lancement du mouvement de cette restauration liturgique que la vision de l'unité ou de l'union de l'Église, dont Lambert Bauduin, va se déployer tout d'abord. Et là, les projets concrets qui ont été mûris en 1909 aboutissent principalement d'abord à l'exposé sur la vraie prière de l'Église que le moine présente. C'est un texte qu'il a publié à ce moment-là. Puis aussi à la fondation du bulletin La vie liturgique, qui a eu une importance énorme, on n'a pas idée. C'était publié également en néerlandais, donc dans les deux langues de la Belgique, et destiné à ramener le peuple des paroisses à une piété qu'il allait puiser dans les trésors qui étaient trop négligés puis déformés de la liturgie de l'Église. Il a d'ailleurs écrit des choses absolument admirables à ce sujet. Il dit, la source première, et, c'est en 1909 qu'il écrit ça, dans la vraie prière de l'Église, la source première et indispensable du véritable esprit chrétien se trouve dans la participation active des fidèles à la liturgie de l'Église. On a donc de la misère à faire participer de façon active les fidèles qui murmurent du bout des lèvres ou qui n'ouvrent même pas la bouche, même encore aujourd'hui en 1996. Il ajoute, le peuple chrétien ne puise plus dans la liturgie l'expression authentique de son adoration et de sa prière et l'élément substantiel de sa vie spirituelle. C'était une époque où on était perdu dans toutes sortes de dévotions, de neuvaines et de toutes sortes de choses qui éloignait les gens du vrai sens. Alors on les voyait, je me souviens dans mon enfance, assistaient à la messe, le chapelet à la main, ils faisaient du bruit en plus de ça, avec leur chapelet sur les bancs, vous vous souvenez, hein? C'était donc fatigant. Et le travail de rénovation liturgique, ajoute Don Lambert Bauduin, sera ardu. Il est bon de s'en persuader. Les foules ont mis des siècles à désapprendre les traditions liturgiques. Puissent-elles être moins lentes à les réapprendre? Vraie prière des fidèles, puissant lien d'union, enseignement religieux complet, la liturgie est tout cela et de là sa nécessité. Et il ajoutait, que de fidèles vont à Dieu pour leur propre compte et laissent le prêtre célébrer au loin en sourdine. La vie paroissiale, l'assistance de toute la messe de toute la famille religieuse au solennel repas du jour du Seigneur diminue. Et incontestablement, mais c'est l'individualisme religieux qui nous a gagnés. On dirait qu'il parle pour aujourd'hui. C'est l'individualisme religieux qui nous a gagnés. C'est comme ça au Québec actuellement. Les gens ne pratiquent plus presque. Il ajoute, est-il étonnant dès lors que beaucoup s'ennuient à l'Église? Ils vont par corvée, ont hâte d'en sortir. Et si leur corps est présent, il est aisé de s'apercevoir à leur air contraint, aux morts de leur physionomie, que leur âme est ailleurs. Et s'il en est ainsi, qui ne voit les heureux résultats qu'amènerait cette rénovation liturgique? Qu'est-ce que ça amènerait, hein? Il le dit, une piété plus éclairée et plus hiérarchique, un besoin moins grand de dévotion nouvelle. Que de gens courent après toutes sortes de dévotions nouvelles, des petits livres, des apparitions, des ci, des ça, et ne connaissent pas l'Écriture sainte, et ne connaissent pas les textes qu'on lit à la messe, ils ne vibrent pas aux textes d'Isaïe, de saint Paul et aux paroles de l'Évangile. Ils vont chercher ça ailleurs. Pourquoi? Je dis pas qu'il faut pas lire autre chose. Mais mon Dieu, d'abord, pouvoir réfléchir sur la liturgie et les textes liturgiques. Hein. Il ajoute, nous aurions aussi un usage plus naturel et partant plus bienfaisant de la Sainte Eucharistie, une connaissance plus complète des saints évangiles et surtout une voie plus facile, plus accessible et plus populaire pour aller au Christ. Ce qu'il a raison. Ah, j'aurai jamais le temps en une heure de tout vous dire ce que j'aurai le goût de vous dire. Alors, fondé sur des bases pratiques et larges, le mouvement liturgique dont le père Baudouin fixe le centre au Mont-César, à l'abbaye du Mont-César à Louvain, se préoccupe avant tout de former le clergé et les fidèles à une participation active au culte traditionnel, et de préférer à la pratique des dévotions modernes et privées. En 1910, se tiennent les deux premières semaines liturgiques, au cours desquelles clergé et laïc cultivés participent à l'office monastique. C'est tout nouveau, hein, tout en abordant une étude sérieuse de la liturgie, puis des moyens de la célébrer dans toute sa richesse. C'est le début, 1910. La même année, naît une revue spécialisée où les questions liturgiques ont eu une énorme importance avec son correspondant flamand. En 1912, juste à la veille de la guerre, est publié le Missel pour tous. Les missels avant n'étaient pas faits comme ça. Hein. C'était pas la même chose. Ils vont suivre ensuite les missels de Don Gaspard Lefebvre, vous vous souvenez, du père Feder, etc. Hein. Les vieux se souviennent de tous ces missels qui nous ont aidés à participer à la messe. Hein. Alors le mouvement atteint bientôt la Hollande, et Don Lambert commence à faire paraître un essai de manuel fondamental de liturgie dans les questions liturgiques de 1912. Dans la brochure de 1914 de la piété de l'Église, qui a connu un rayonnement considérable, je me souviens de cette brochure qui traînait un peu partout quand j'étais jeune, mais il a élargi la réforme liturgique voulue par Pie X, en insistant sur le caractère essentiellement liturgique de la prière de l'Église, car la prière de l'Église est essentiellement liturgique. On ne peut rien faire de mieux pour prier que de se rassembler autour de l'autel avec un prêtre qui préside et d'offrir à Dieu notre Père son Fils bien-aimé et d'y communier et de recevoir en nous le Christ vivant dans l'unité de l'Esprit-Saint et d'écouter les textes liturgiques que l'Église sous la conduite de l'Esprit-Saint nous propose chaque jour. En août 1914, c'est la guerre. Alors la Belgique est envahie par l'Allemagne. Et donc, Baudouin va demeurer seul au Mont-César pour garder les lieux. Il réussit à gagner le dignitaire militaire allemand qui occupe surtout l'abbaye, avec d'autres Allemands. Il gagne son amitié. Il a un don extraordinaire de convaincre les gens. D'ailleurs, il avait reçu le sourire aux lèvres, les Allemands étaient surpris. Alors, quelques mois plus tard, il collabore avec le cardinal Mercier, le fameux cardinal Mercier, que tant souhaitait l'union des Églises. C'était un habitué du Mont-César, lui. Alors, il a collaboré avec lui à la rédaction de la lettre pastorale « Patriotisme et endurance ». Et ça a créé bien des problèmes à notre pauvre don Lambert Baudouin. Il s'est échappé de justesse. C'est toute une histoire. Il faut lire cette aventure dans ce beau livre du père Louis Bouillet, oratorien. Il était protestant, Louis Bouillet, puis devenu prêtre catholique et oratorien. Il a écrit, au début des années 60, « Don Lambert Baudouin, un homme d'Église ». C'est un livre de 200 pages, fascinant. Et dedans, il nous explique tout ce qui lui est arrivé durant la guerre. Si vous pouvez mettre la main sur ce livre, qui est paru il y a très longtemps, donc il y a presque 40 ans, 35 ans, eh bien, vous jubilerez. C'est un livre magnifique à lire. Bon, c'est passionnant. Et alors donc, je vous fais grâce de tout ce qui lui est arrivé durant la guerre. C'était un espion, un ci, un ça, ici, costumé, habillé de toutes sortes de façons pour échapper aux Allemands et pour aider l'Église. Il s'est échappé de justesse, donc, s'est arrivé en Angleterre. Et là, il a découvert l'anglicanisme. Ça lui a permis de découvrir des grandes richesses de la liturgie. Il est allé même en Irlande, où s'étaient réfugiés les jeunes moines de l'abbaye de Maretsou, l'abbaye grande abbaye belge. Et il a repris son enseignement théologique en 1917, un an avant la fin de la guerre. Mais la guerre terminée, il rentrait au Mont-César. Des jeunes moines s'enthousiasment pour son projet d'un monastère qui combinerait quoi le meilleur de l'ancienne tradition avec l'ouverture aux besoins de l'Église et du monde moderne. C'est-à-dire qu'il voulait des moines bénédictins modernes. Et modernes, dans deux sens, c'est qu'ils seraient des deux rites, des deux poumons de l'Église, comme dit le pape Jean-Paul II, de rite orthodoxe et de rite latin. Dans son abbaye, le mouvement liturgique avait pris une orientation plutôt scientifique. La communauté, dans son ensemble, accueille avec méfiance ces idées-là de réforme religieuse. Et dans ces circonstances, dont Lambert Beaudoin accepte une charge de professeur au Collège international bénédictin de Saint-Anselme, la grande abbaye de Saint-Anselme à Rome, où les bénédictins du monde entier vont étudier. Alors, il enseigne là. Il arrive là en octobre 1921. À cette époque, plusieurs personnalités romaines espèrent l'ouverture de l'ancien empire russe à l'apostolat catholique, parce que les Russes sont passés sous le joug du communisme. Mais on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Et dont Lambert en est informé. Il est pressé par le jésuite français Michel d'Herbigny, président de l'Institut pontifical oriental, qui a été fondé par Benoît XV, un institut pontifical où on enseigne la pensée russe, la théologie russe, la liturgie russe. J'ai assisté à des messes magnifiques, là, en liturgie orthodoxe russe. C'était superbe, hein, mais catholique. Alors, ils ont pensé envoyer des moines en Russie, mais évidemment que ça n'a pas été possible. C'était un projet impensable. Et alors, au début de 1924, il y a eu un projet d'institut monastique pour l'union des églises qui est remis au pape Pie XI par l'entremise du cardinal Mercier. Mais le père d'Herbigny, puis le primat des bénédictins à Rome, insiste sur l'objectif russe de la fondation. Et dans le bref Equidem Verba du 19 mars 1924, Pie XI demande qu'une abbaye bénédictine par congrégation prépare des moines à se rendre en Russie. Et tout ce rêve tombe à l'eau, évidemment. Tout ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est mieux de faire un essai modeste de vie et d'apostolat oriental. Alors, rentré en Belgique en avril 1925, il se met à l'œuvre. Et c'est là qu'on va voir la fondation, en décembre 1925, à Amiens-sur-Meuse, de ce monastère qui est maintenant à Chevetogne et qui est un monastère extraordinaire où les moines bénédictins des deux rites prient de part et d'autre, chacun selon leur liturgie. Et maintenant, nous allons continuer avec Don Lambert Beaudoin, ce moine malheureusement presque inconnu, ce bénédictin admirable, exceptionnel, l'un des plus grands de l'histoire du monachisme, à mon avis. Je vais jusque-là. Car son influence sur l'Église du XXe siècle a été énorme, immense, pour ouvrir le cœur des chrétiens, plus particulièrement des catholiques, non seulement à la liturgie, à la beauté, à la grandeur de la messe et de l'office que récitent les moines et que récitent de plus en plus des laïcs, mais aussi à la grandeur et à la beauté des autres églises chrétiennes, à la fraternité, à l'amour, quoi. Et alors donc, il avait 52 ans environ quand il est rentré en Belgique en avril 1925. Et c'est là qu'après avoir organisé à Bruxelles une semaine pour l'union des églises en vue de sensibiliser l'opinion publique, l'opinion catholique en particulier, eh bien, Don Beaudoin s'est installé en décembre 1925 à Amiens-sur-Meuse. C'est d'un ancien Carmel désaffecté, un petit Carmel pauvre. Il s'installe là avec un petit groupe de moines dont il devient le prieur. Puis en septembre de l'année suivante, en 1926... septembre 1926. Mon Dieu, je suis né en septembre 1926. Voilà. Je m'excuse de ce détail. C'est Raymond Beaugrand-Champagne qui vous parle. J'ai la tête un peu surexcitée. Et voilà. Donc, en septembre 1926, le monastère est érigé canoniquement. Il compte alors une vingtaine de moines. qui célèbre la liturgie et l'office dans les deux rites, comme je vous expliquais tout à l'heure, le rite romain et le rite byzantin. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Ils sont déménagés à Cheftogne et c'est beau. Allez voir ça, c'est merveilleux. En Belgique. Mais dans l'esprit du fondateur, cette œuvre amorcée ne doit pas plus se limiter à la formation d'une communauté monastique d'un nouveau style qu'à un objectif d'apostolat en Russie. Non, non. Aussi, il cherche, entre 1923 et 1926, à pousser divers projets. Certains seulement vont se réaliser. Il y a celui d'une collaboration avec les moines studites d'Uniof en Galicie. C'est sans lendemain, ça. Il y a l'idée d'une congrégation monastique orientale qui n'aboutit pas davantage. Mais on peut dire que l'animation unioniste, c'est comme ça qu'on appelle ça, là, se développe dans les écoles, les communautés religieuses, les cercles de jeunesse. On parle de plus en plus de l'union des chrétiens. L'œuvre la plus durable, c'est la création à Amée-sur-Meuse d'Irénicone. Couverture brun, très pâle et rouge. Et, bon, au hasard d'un numéro que j'ai en main, ça vous donne une idée, Bessarion et le palamisme au Concile de Florence, une problématique de la paix pour notre temps, par René Coste, l'Église catholique ukrainienne en Pologne, nos relations entre les communions, les relations entre les différentes églises, puis il y a la chronique des églises, puis il y a la bibliographie, puis les livres sup, etc. C'est toujours très intéressant. Très, 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 très intéressant. On peut pas tout lire, évidemment. Ça, environ chaque numéro, 150 pages. Et par suite de difficultés de tout ordre, eh bien, les débuts d'Amée, Amée-sur-Meuse, de ce monastère, sont incertains. Pour les autorités romaines, puis celles de l'ordre bénédictin, le monastère est supposé avoir un objectif précis, c'est la Russie. Or, fidèle à son projet global d'unité, le père Lambert Baudouin renoue avec l'anglicanisme toutes sortes de contacts, non sans provoquer les plaintes des catholiques anglais. Il faut lire dans le livre du père Louis Bouillier tout ce le problème de ça, c'est tragique. Simplement pour avoir écrit des moines bénédictins anglicans, ça existe des moines bénédictins anglicans, il terminait sa lettre en disant « Votre frère en Saint-Benoît ». Et parce qu'il avait dit ça, « Votre frère en Saint-Benoît », il était quasiment condamné pour hérésie. Mais on était d'une sévérité à cette époque, c'était pas possible. On trouve que c'est sévère aujourd'hui, mais c'était effrayant. Je me souviens dans ma jeunesse, il fallait faire très, très, très attention à tout ce qu'on disait, à tout ce qu'on écrivait, à tout ce qu'on risquait de penser, tellement c'était strict. Quelle triste époque. Et alors, la commission romaine pro-Russia va le rappeler à l'ordre. Il répond en mettant en jeu sa charge de prière, puis finit à cause de toutes sortes d'événements dont je préfère ne pas vous parler, tellement c'est triste, c'est tellement pénible. Alors, sa démission est acceptée en décembre 1928, et au cours d'un voyage de plus d'un an, ben là, il prend contact avec les milieux qu'on appelle byzantinistes et slaves de Paris, c'est-à-dire ceux qui relèvent de l'orthodoxie de Byzance et ceux qui relèvent de l'orthodoxie russe. Alors, à Paris, dans les Balkans, dans le Proche-Orient, puis en même temps, il y a un rapprochement qui est entamé sous la forme d'un cercle privé qui vise à poursuivre par correspondance les conversations de Malines du cardinal Mercier avec Lord Halifax, et qui avait été interrompu depuis la mort du cardinal Mercier. Tout fait ce pour l'union des églises catholiques et anglicanes. Et là, il y a eu deux moines d'Amée, du monastère d'Amée-sur-Meuse, qui sont passés à l'orthodoxie. Pas vraiment deux moines d'Amée, il y en avait un vraiment, l'autre c'était pas tout à fait un moine du monastère. Et ensuite de ça, il y a des jeunes recrues qui souhaitaient pas se russifier, parce que le monastère, en principe, rendait un peu russe tous les moines. Alors, ça a créé des difficultés. Il y a eu des reproches aussi sur l'esprit religieux qui n'aurait pas été conformiste. Il y a eu des reproches, des accusations complètement fausses de la part d'une espèce de maniaque sur la gestion financière, ça a achevé d'inquiéter les autorités dont dépend le monastère. Le père Louis Bouilly explique très bien ça dans son livre. C'est une folie quand un délégué du Saint-Siège est venu vérifier les choses, s'est bien rendu compte que c'était un monastère remarquable et qui était même meilleur que la plupart des autres monastères bénédictins. Et en janvier 1931, mais là, la commission pro-Russia a désavoué Don Lambert au cours d'un véritable procès. Amé devra disparaître et son fondateur quitter la Belgique. Tout ça pour des accusations stupides et fausses. C'est Louis Bouilly qui le prouve dans les moindres détails avec des lettres et des analyses des documents. Alors, la première mesure est assez vite rapportée. Bon, alors, on ne fait pas disparaître le monastère. Là, la seconde mesure, qui est de forcer Don Lambert Bauduin à quitter son monastère, est effective par ordre du cardinal Pacelli, le futur Pie XII, qui est secrétaire d'État, en mars 1932, et Don Lambert Bauduin est envoyé pour 2 ans à la belle abbaye d'Encalcate, où j'ai failli rentrer en 1950, tellement j'ai aimé cette abbaye. Quelle belle abbaye que l'abbaye d'Encalcate. Ça me tentait beaucoup. Et alors là, bien, c'est à cette époque qu'il a écrit sur la place de la Bible un très beau texte. Il dit « Le point de vue de la théologie est le suivant. Il n'y a qu'un seul mystère. » Écoutez bien ça, hein, un seul mystère. « Notre résurrection à la vie de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. » Un seul mystère, il veut dire une seule vérité, invisible, si vous voulez, qui est notre résurrection à la vie de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. En somme, pour vivre de la vie de Dieu, pour que Dieu nous habite et nous fasse grandir et nous rende joyeux, heureux et plein de lui, ça ne se fait qu'avec Jésus-Christ. Notre résurrection à la vie de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ est le seul mystère. Tous les autres mystères, dit-il, sont en fonction de celui-là, la Trinité elle-même. Nous ne savons pratiquement que ce que Dieu nous a révélé lui-même de sa vie, car ces choses sont tellement élevées qu'elles nous dépassent radicalement. Les théologiens s'efforcent de trouver quelques analogies, quelques raisons de convenance après coup, mais rien ne nous est connu de Dieu que ce qu'il lui a plu de nous révéler. C'est donc la révélation, c'est-à-dire la Bible, c'est donc la révélation, la Bible, qui doit être à la base de toutes les études théologiques. Il est décidé. Alors comme, justement, les décisions romaines l'obligent à rester à l'étranger, une fois sa pénitence accomplie, Don Lambert Bauduin compte se consacrer au développement du mouvement liturgique en France, et malgré ses amitiés dans le monde ecclésiastique français, bien on l'en empêche. Et alors, imaginez pendant 17 ans, ce pauvre homme, de 1934 à 1951, il va devenir simplement aumônier de religieuses chez les oblates olivétaines de Cormeil en Parisis, puis ensuite chez les religieuses du Bon Sauveur de Caen à Chatou. Ce sont des années fécondes, cependant, pour l'éveil des olivétaines aux questions orientales et écuméniques, par les contacts repris aussi avec les anglicans, et par ceux que Don Lambert établit avec les initiateurs français de l'écuménisme, le fameux père Yves Congard, dominicain, et l'abbé Paul Couturier. Oh, j'ai hâte de vous parler de ces deux personnages qui ont enchanté ma jeunesse. Et à la demande des dominicains, eh bien, Don Lambert Bauduin joue aussi un rôle décisif dans la fondation en 1943 du fameux centre de pastoral liturgique de Paris. Le fameux centre de pastoral liturgique de Paris, publié La Maison Dieu, grande revue auquel j'étais abonné si longtemps. Et il exerce une influence directe dans la mise sur pied des conférences liturgiques interconfessionnelles entre les différentes églises, organisé à partir de 1953 à l'Institut orthodoxe Saint-Serge. L'Institut orthodoxe Saint-Serge, c'est une faculté extrêmement importante d'enseignement de la théologie orthodoxe à Paris, et c'est là qu'enseigne ce merveilleux Olivier Clément. Olivier Clément, qui est un des grands chrétiens de ce siècle, ce grand orthodoxe russe d'origine française. En 1951, le prieur de Chevetogne, le monastère de Chevetogne, à Messure-Meuse, il rendu à Chevetogne, ils sont rendus là depuis 1939, mais le prieur obtient de Rome l'autorisation de réintégrer le fondateur dans sa communauté. Alors, établi à Chevetogne pendant ces dernières années, bien, le père Bauduin, Lambert Bauduin, voit affluer les éloges et les témoignages de vénération, notamment de la part des plus hautes autorités de l'Église. Et à l'occasion de ses 80 ans, deux recueils d'études, un liturgique, l'autre concernant l'unité chrétienne, vont lui être dédiés. Ceux qui vivent auprès de grandes bibliothèques religieuses peu fréquentées, ce sont les mélanges liturgiques recueillis parmi les œuvres de Don Lambert Bauduin. C'était publié en 1954 par l'abbaye du Mont-César à Louvain. Et l'autre, c'est 1954. Ça vous dit quelque chose, 1054? C'est cette année tragique du schisme entre la grande Église orthodoxe et l'Église catholique. Drame épouvantable. C'est donc 1954, l'Église et les Églises, 9 siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident. Études et travaux offerts à Don Lambert Bauduin, 2 volumes, publiés à Chevetogne en 1954 et 1955. Alors, pour le 50e anniversaire du mouvement liturgique, en 1959, ça avait commencé en 1909, hein? Mais la revue Les questions liturgiques et paroissiales va lui consacrer un numéro spécial qui est passionnant, et les participants de la semaine liturgique annuelle du Mont-César font le déplacement vers Chevetogne pour rendre hommage à ce pionnier vénérable âgé du mouvement. C'était un homme exceptionnel, hein? 2 ans plus tôt, imaginez, le patriarche de Venise, le cardinal Angelo Roncalli, est un ami de longue date de Don Lambert. Ils se sont rencontrés sous un parapluie, sous la pluie. Il faut lire ça dans sa vie, c'est passionnant, c'est très intéressant. Bien, Angelo Roncalli a reconnu tout ce qu'il lui doit au point de vue œcuménique. Il l'a dit même en tant que Jean XXIII. Le père Bauduin espérait depuis longtemps la réunion d'un concile. En 1958, lors de l'élection de Mgr Roncalli comme pape Jean XXIII, ça a renforcé ses espérances. Alors, le concile annoncé en janvier 1959 occupe toutes ses pensées et sa prière. Vatican II allait effectivement confirmer les principales entreprises auxquelles il avait voué toute sa vie, en étendant l'esprit à l'Église entière. Alors, au lendemain de la mort de Don Lambert Bauduin, qui est survenu le 11 janvier 1960, le 11 janvier, Jean XXIII a tenu à rendre hommage à celui qu'il qualifiait d'excellent religieux et de zélé artisan du renouveau liturgique contemporain. L'œuvre publiée de ce moine compte environ 220 titres, il s'agit principalement d'articles, et toute sa pensée s'ordonne autour de la doctrine de l'Église, comme je vous ai dit, comme corps mystique du Christ, doctrine qui en 1910 était fort négligée, au profit de l'espèce d'idée tout à fait juridique qu'on avait de l'Église société parfaite et strictement hiérarchisée. Pour connaître l'Église, il suffisait de la connaître comme une société, puis d'en connaître toute la hiérarchie. Mais c'est pas ça l'Église, c'est le corps mystique du Christ. C'est vivant, mais la vie même du Christ. Alors, médité et nourri par sa fréquentation d'Écriture, des pères de l'Église et des textes des conciles, cette doctrine est mise en œuvre dans les réalisations de ce religieux en matière liturgique, dans la réforme monastique, puis aussi en faveur de l'unité chrétienne. Car il ne peut pas comprendre que le corps mystique du Christ soit séparé, soit brisé. Et c'est tragique quand on voit toutes les églises chrétiennes séparées. Ça fait mal. Alors, liturgie, œcuménisme, ecclésiologie, ce sont les 3 domaines clés où Don Lambert Bauduin fut un des grands précurseurs du Concile Vatican II. Si la liturgie, selon lui, ne peut être comprise qu'à partir du sens profond de l'Église, qui elle-même participe à l'humanité glorifiée du Christ, la célébration eucharistique, à son tour, elle constitue, dit-il, le corps ecclésial dans l'unité. Elle acquiert ainsi une dimension universelle. La célébration eucharistique, là, quand vous assistez à la messe, dites-vous bien que cette messe est universelle. Elle est unie à toutes les autres messes sur la terre, d'un bout à l'autre du globe, qui seront célébrées ou qui ont été célébrées ou qui sont célébrées en même temps sur cette planète. Car c'est une grande célébration de l'humanité qu'adresse son amour à Dieu notre Père. Oh, cette conception est si belle. Et l'application de ces principes à la vie monastique, à la tâche écuménique, ben ça suit naturellement de tout ça. Et dans le renouveau monastique qui est propagé par Don Lambert Bauduin, les observances sont simplifiées. Les dévotions secondaires sont mises à l'écart. Les moines ayant à nourrir leur vie intérieure au contact des grandes sources de la foi, que sont quoi? L'Écriture, les pères de l'Église, les textes des conciles et la très sainte liturgie. L'accueil de toutes les valeurs spirituelles des autres confessions chrétiennes et même de toute culture, pourrait-on dire, doit renforcer l'universalité de la rédemption qui est destinée à tous les hommes. Un chrétien se doit d'être au courant des richesses des autres églises. Pour nous, être au courant particulier de la grande richesse de l'Église orthodoxe russe et des grandes églises orthodoxes, de l'anglicanisme, du luthéranisme, et même, je dirais, des choses intéressantes qu'on peut trouver chez les pentecôtistes, chez les baptistes, dans d'autres confessions chrétiennes, mais particulièrement dans les églises orientales et chez les arméniens. Mais oui, homme d'intuition, Don Lambert Bauduin a perçu, dès 1925, la connexion entre les mouvements non catholiques en faveur de l'unité et celui qu'il voulait développer lui-même, parce qu'il y avait là les protestants qui cherchaient l'unité, car il se rendait compte, quand il partait en mission depuis la fin du siècle dernier, combien il était impensable qu'arriver dans des pays, il puisse y avoir 7, 8, 10 églises protestantes différentes. Ils recherchaient l'unité, c'est très difficile pour eux. Don Lambert Bauduin a attiré dès le début des personnalités de toute confession, qui ont entretenu des relations d'amitié avec le monastère d'Amé-sur-Meuse, aujourd'hui le prieuré de Chevetogne. Ce monastère, un des tout premiers lieux où on a réappris à louer Dieu ensemble et à écouter sa parole, très essentiel de la quête contemporaine de l'unité. Mes autres caractéristiques qui font de Don Lambert Bauduin un des pionniers du mouvement écuménique consistent à avoir compris et fait comprendre qu'à la différence de l'intention unioniste des années 20, encore en vigueur dans le catholicisme sous Pie XI et Pie XII, l'unité ne peut se réaliser par l'absorption ou les réunions encore. Il ne s'agit pas d'absorber. Si nous arrivions à nous unir avec les orthodoxes, il ne s'agit pas d'absorber les orthodoxes. Ceux qu'on appelle les uniates dans l'Église catholique, comme les moines russes de l'abbaye de Chevetogne, sont une préfiguration, une petite image du jour où l'Esprit-Saint sans doute désire fortement l'union de nos églises, afin que, restés nous-mêmes, nous soyons unis quand même, comme des vrais frères. Alors, comme conférencier et épistolier abondant, comme prédicateur de nombreuses retraites à des prêtres et à des religieuses, il exerçait un rayonnement qui tenait à sa personnalité. Il avait une personnalité séduisante. Il était habité d'une foi profonde et éclairée. Puis il avait un tempérament super vivant et il savait rire. Il fondait la vie spirituelle sur une conception renouvelée de l'Église. L'Église considérée comme un peuple de race royale et comme l'épouse du Christ qui enfante les saints. L'Église, elle enfante les saints. C'est très, très, très important. Mettons-nous ça dans la tête. Il rendait du même coup sa place centrale au Christ. Il disait cet homme en parlant du Christ, mais avec un H majuscule, puis il l'écrivait en italique, comme quoi il croyait profondément la divinité du Christ. Cet homme, assis à la droite du Père, qui résume en lui toute la nouvelle humanité, et qui nous introduira avec lui in sinu patris, c'est-à-dire dans le sein du Père. Il insistait, par conséquent, sur la méditation de la Sainte Écriture, dont l'abandon comme celui de la lecture des Pères de l'Église constituait à ses yeux la grande, grande lacune dans la piété et l'esprit sacerdotal. Ce qui manque vraiment à notre catholicisme vivant, c'est une connaissance plus forte de l'Écriture, plus forte de la liturgie, plus forte des Pères de l'Église. On a pu écrire au lendemain de sa mort qu'il fut l'un de ces êtres d'exception dont la rencontre est une grâce, comme l'histoire du XXe siècle chrétien en a peu compté. On peut dire qu'il prend place dans Lambert Bauduin, aux côtés du cardinal Mercier, qui l'avait honoré de son amitié. Aux côtés aussi de son ami le père Vincent Leb, dont j'espère vous parler, ce père Vincent Leb merveilleux qui s'est fait chinois, et qui dans cet autre domaine des missions, n'est-ce pas, a eu le même sens aigu des besoins urgents de l'Église. Il écrivait, dont Lambert Bauduin, en 1940, sur la vocation des moines du monastère de Chevetogne, « Je voudrais proposer à tous ceux qui entrent là de laisser à la porte tout particularisme et de chercher en toute chose l'universel, ce qui vaut pour tous, en théologie surtout, en art, en ascèse, etc. Et comment, comme moyen, ben, l'irénisme, faire tout cela dans un esprit de paix et de charité. Alors les moines de Chevetogne, ou de damé, si vous préférez, doivent avoir le culte, la passion de l'unité dans tous les domaines. Par exemple, le patriotisme, c'est excellent, mais pas à Amé, pas à Chevetogne. Il s'agit d'un idéal supérieur. Et les rites, il faut retrouver en tous, en tous les deux, oriental et latin, la même chose, le même Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni gentil, plus que le Christ. Il ne faut pas avoir l'ambition de faire, de réaliser quelque chose soi-même. Il faut savoir se donner à une œuvre. J'y ferai n'importe quoi, mais j'y remplirai mon âme de cet idéal collectif, dans l'intimité du Verbe fait chair. Et c'est ça qu'on voit à Chevetogne, des moines qui ont cet idéal collectif dans l'intimité de Jésus, du Verbe fait chair. C'est superbe d'aller à Chevetogne, c'est merveilleux d'écouter ces chants magnifiques. Les chants russes, à droite du monastère, et à gauche, le chant grégorien. Et alors, c'est magnifique, c'est très, très beau. Et ce que vous entendez, justement, présentement, ce sont les chants russes des moines de Chevetogne qu'on peut se procurer sur disque. On le trouve sur un disque Christophorus. Et c'est intitulé « Le grand et saint jeudi, le cœur des moines de Chevetogne ». C'est Christophorus 77-154.